Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet, présenté par Mel JR, un mercredi sur deux sur Radio G.
Bonjour et bienvenue sur Pop Flash. Pour ce quatrième épisode de Pop Flash, je suis JR et je serai accompagné de Mel pour encore une fois pour cette émission. Bonjour Mel, comment tu vas ?
Coucou, bah ça va très bien, merci. Je suis très contente d'être là pour la quatrième émission, encore une fois.
Et aujourd'hui, du coup, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par la petite chronique de Mel, qui nous parlera des dernières sorties jeux vidéo et des dramas. On suivra tout de suite avec une petite chronique Qu'est-ce qu'on lit, dans laquelle on parlera d'un très bon manga qui est terminé et d'un comics qui est assez connu. Peut-être que vous le connaîtriez déjà, mais bon, comme ça, au moins, j'en parle. On continuera avec une petite pause musicale dans laquelle on passera un très bon générique d'animé qui est assez récent, pour ensuite enchaîner directement pour parler de cet animé. Puis on parlera de la meilleure série d'animation qui est sortie lors de ces 10 dernières années. Et on finira par une deuxième pause musicale. Et on pourra tout de suite reprendre ensuite par une petite chronique du coup sur le jeu de rôle, où on parlera de la chronique des 5 anneaux. Et on finira par une rubrique par bric-à-brac, tout simplement, où on répondra à vos questions. On se retrouve tout de suite du coup pour la chronique Game Pop. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Aujourd'hui, on va parler de quelques grosses nouvelles autour de Nintendo et aussi de quelques petites polémiques qui ont secoué l'industrie dernièrement. Nintendo Music, le lancement attendu. Le mois dernier, Nintendo Music a enfin été lancé. Ce service disponible pour les abonnés à Nintendo Switch Online offre une expérience unique. Écoutez les bandes-sons de nos jeux vidéo préférés Nintendo directement sur notre téléphone. C'est un vrai régal pour les fans de musique de jeux vidéo et vous pouvez désormais créer vos propres playlists, choisir les morceaux que vous voulez écouter en boucle et profiter des musiques de jeux emblématiques comme Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing, etc. L'application connaît déjà un vrai succès avec plus de millions de téléchargements. Et malheureusement, je n'ai plus le Nintendo Online pour l'instant, mais je pense que je le prendrai quand j'aurai... je pense que j'utiliserai l'application, en fait.
Bah, tout simplement quand on reprendra le Nintendo Online, parce que ça en vaudra le coup, mais en vrai, c'est déjà une très bonne chose, même si je pense que les musiques, toutes ces musiques, on peut pas déjà les trouver sur YouTube ou sur YouTube Music ou Spotify ?
Pas toutes, non, pas toutes. Et puis là, en fait, au moins, elles sont toutes recensées par playlist. Donc, en fait, tu as juste à taper le nom du jeu vidéo et tu as toutes les musiques du nom de jeu vidéo. Par exemple, les musiques de Zelda Breath of the Wild, tu tapes Breath of the Wild et tu as toutes les musiques recensées de Breath of the Wild.
Ok, ça peut avoir une vraie plus-value, d'accord. Ok, très bien. Et du coup, c'est quoi la suite ?
Concernant les sorties jeux vidéo, voici un résumé principal sorti, les principales sorties de jeux pour novembre 2024. Le 1er novembre est sorti Farmadia sur PC, Switch et PS5. Le 4 novembre, Mario et Luigi Brother Chip sur Switch et une mise à jour Stardew Valley 1.6 pour les consoles et mobiles. Le 12 novembre, Tetris Forever PC et console. Le 14 novembre, Dragon Quest 3 HD 2D Remake sur Switch. Et le 20 novembre, Stalker 2 sur PC, Xbox Series XS. Et le 25 novembre, Lego Horizon Adventure sur PC et console. Un peu de drama dans le monde du jeu vidéo. Bon, on va pas se mentir, le monde du jeu vidéo n'est pas toujours rose. Et en dehors du Nintendo, ce qui s'est passé, c'est que le studio Shift Up a récemment fait parler de lui avec son jeu Stellar Blade. Le personnage principal, Eve, a été critiqué pour son design jugé trop sexualisé, ce qui a relancé le débat sur le traitement des personnages féminins dans l'industrie. Ce genre de controverse continue de diviser la communauté, mais c'est un sujet qui mérite peut-être qu'on s'y arrête un petit peu. Et ce n'est pas tout, car l'industrie continue d'être marquée par des licenciements massifs chez des géants comme Epic Games et Bungie. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi cette année, ce qui soulève des questions sur les conditions de travail dans le secteur. Une situation difficile qui a remis en lumière la nécessité de protéger les droits et des employés. Et des appels dans la syndicalisation des développeurs, et notamment avec Activision Blizzard qui est dans une grosse polémique. Je ne sais pas si tu l'as entendu, cette polémique.
Non, c'est quoi la polémique ? Je suis curieux.
Il y a des accusations de personnes qui ont agressé.
Il y a encore eu des accusations d'agression sexuelle et de tout ça. Est-ce que ça m'étonne ? Non, c'est pas la première fois. Et puis Activision, ils sont un peu connus pour ça maintenant. C'est un peu une des pires boîtes où travailler.
Il y a Blizzard et Activision Blizzard qui sont en gros deux branches plus ou moins différentes. Et en fait, du coup, Blizzard et Activision Blizzard sont en conflit à cause de ça, justement. Et en gros, il y a des soucis internes, si j'ai bien compris toute l'histoire. Mais en gros, il y a des conflits encore actuellement internes entre la grosse boîte Blizzard et la branche Activision Blizzard.
Bah, personnellement, ça m'étonne vraiment pas. Enfin, je veux dire, le fait que les jeux vidéo aient, on va dire, un gros problème, notamment dans les géants, pas dans les plus petits, mais chez les géants, qu'il y ait des problèmes de management, pour rester poli, et d'agression, et que ce soit maintenant en interne qui se déchire. Sincèrement, ça m'étonne pas. Activision, c'est pas du tout la première fois. Blizzard, c'est pas la première fois non plus. À un moment, je pense que ce qui se passe encore aujourd'hui, même si ça fait quand même un certain temps que ça a débuté, c'est que, étant donné que le jeu vidéo est de plus en plus mainstream, aujourd'hui le jeu vidéo est mainstream, en fait, ce milieu dans lequel avant tout était très fermé, où il y avait peut-être une espèce de on ne parle pas, parce que c'était compliqué de rentrer dans de faire du jeu vidéo, ça l'est moins aujourd'hui, ça l'est toujours, mais ça l'est moins. En fait, mettre en coup de pied, en fait, dans ça, tout simplement, ça fait qu'il y ait des affaires ressortent, évidemment.
Ouais, mais je pense faire une petite enquête et d'ici quelques temps, peut-être en faire une chronique consacrée sur l'industrie du jeu vidéo, car j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dramas et de choses comme ça. Mais c'est là tout pour Game Pop aujourd'hui. Et je vous laisse avec la suite et avec Karou. Avec JR.
Bah, c'est pas grave, tu peux m'appeler Karou. Mais de toute façon, merci beaucoup pour cette chronique qui a été assez courte aujourd'hui. On se retrouve tout de suite, du coup, pour la chronique Qu'est-ce qu'on lit ? Et bah, du coup.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Alors, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors, on lit deux œuvres qui m'ont particulièrement marqué récemment dans ma vie, du coup, de lecteur. On va parler, du coup, dans un premier temps de... Tac, 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 je cherche mes notes, ça, il va falloir le coder. On va parler tout de suite de Beastars. Alors, Beastars, qu'est-ce que c'est ? C'est un manga qui est assez connu parce qu'il a aussi une série sur Netflix. Ça a été écrit par Paru Itadaki, et petite fun fact, on l'a su qu'à la fin du manga, mais Paru Itadaki, c'est la fille d'un mangaka célèbre, c'est la fille du mangaka de Baki. Je sais pas si tu connais Baki, Mel ?
J'en ai déjà entendu parler, c'est pas mon style de manga ni d'anime, mais j'en ai déjà entendu parler, oui.
Mais voilà, du coup, c'est sa fille. Elle a pas voulu qu'on le sache parce qu'elle avait peur qu'on parle de népotisme. Il faut savoir que du coup, c'est un manga que personnellement j'aime beaucoup. J'aime bien Baki aussi, mais je préfère Beastars et leur style de dessin, mais aussi d'écriture. Je trouve très différent. Mais là, de toute façon, c'est pas la question. Donc, comme dit, c'était écrit par Paru Itadaki. C'est sorti aux éditions Kion, si je me trompe pas. Et bah, du coup, de quoi est-ce que ça parle ? Beastars nous prend place dans un univers qui est peuplé d'animaux anthropomorphes et civilisés. Chaque habitant est dans une caste, entre guillemets, qu'on va appeler carnivore ou herbivore. Et on va suivre tout simplement les gauchis. Les gauchis, qu'est-ce que c'est ? Les gauchis, c'est un loup gris qui va du coup dans une académie qui s'appelle Sherrington, alors que un herbivore vient de se faire assassiner et qu'une enquête va être lancée. Je viens tout simplement de vous pitcher de manière très très succincte la première partie de Beastars. Il faut savoir que c'est un manga qui est très riche, qui est en 3 parties et qui surtout, chose intéressante pour les personnes qui voudraient le lire, il est terminé et il est terminé rapidement parce qu'il est terminé en 20 tomes. Et c'est fini il y a environ 2 ans. Pourquoi est-ce que c'est bien? Déjà parce que les personnages sont très très bien écrits. On va suivre principalement 3 personnages. Donc le personnage principal qui s'appelle Legoshi et 2 personnages secondaires qu'on pourrait presque appeler des personnages principaux qui sont Haru, une petite lapine blanche, et Louis, un cerf qui du coup va avoir un parcours qui sera souvent mis en parallèle de celui de Legoshi. L'écriture de ce manga est très juste en fait, avec une écriture de personnages qui est toujours très bien. Ça parle de beaucoup de choses qui peuvent être vues comme être dures, mais qui, à mon avis, peuvent parler à tout le monde, mais y compris à des enfants, pour une fois. On va parler d'acceptance de soi, on va parler d'amour, on va parler de discrimination, mais surtout, ce serait une... Alors, selon moi, évidemment, ça n'entraîne que moi, mais pour moi, ce manga est aussi une très bonne critique de la société japonaise qui est encore très codée et dans laquelle on ne peut pas spécialement sortir, en fait, de la caste, entre guillemets, dans laquelle on est né. Toute la question du manga, c'est la question de est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux alors que la société me dit de faire autre chose. Cela prendra la forme de Legoshi qui essayera dans un premier temps de limiter son instinct de prédateur, mais aussi de tous les autres personnages qui voudront un peu sortir de cette case dans laquelle on la met. Même si le dessin est particulier, on a quand même un dessin qui est très beau, qui est très détaillé, qui peut passer de dessins très très détaillés, notamment sur les personnages, à un dessin qui est très minimaliste si cela sert le propos. Et enfin, l'autre gros point positif, alors c'est selon moi évidemment, c'est tout simplement les méchants, parce que les méchants sont extrêmement bien écrits. Ce ne sont pas des méchants qui sont manichéens, c'est souvent des personnages qui peuvent être considérés comme des victimes tout simplement. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon je vais devoir directement spoiler en fait le manga et j'ai pas du tout envie parce que j'ai envie que vous le lisiez. Mais voilà, le vrai méchant de la saison 1 entre guillemets est peut-être tout petit peu moins bien écrit que le deuxième, mais je trouve que le deuxième est vraiment un des méchants les mieux écrits des mangas de ces dernières années. Et quand je parle de ces dernières années, j'ai tout de suite pensé au Big Trim, en fait ça date d'il y a plus de 20 ans, on va dire, de ces 10 dernières années. Voilà pour ce qui est du premier livre. Je sais que Mel l'a lu aussi, et du coup je vais lui demander son avis. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Oui, alors moi je l'ai pas fini le manga, parce qu'il y a beaucoup de tomes, enfin... Toi, tu trouves qu'il n'y en a pas beaucoup, 20 tomes. Moi, je trouve que c'est beaucoup parce que j'ai l'habitude de lire souvent des one-shots ou des mangas qui se finissent en 5 tomes maximum. Mais effectivement, j'avais beaucoup aimé Beastars. Et en plus de ça, j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait, même si c'est représenté par des animaux, ils sont humains. C'est une représentation de l'humain à travers des animaux pour que ce soit
plus facile à lire.
Plus facile,
en fait.
Pour que ce soit plus facile à lire et moins ciblé, on va dire, pour que ce soit un peu plus de façon détachée. Mais les animaux sont plus humains que certains humains, quoi.
Disons que les personnages sont... Enfin, désolé, je rebondis, hein, j'étais peut-être coupé.
Très bien.
Mais je rebondis parce que peut-être que aussi ce qui fait que dans le manga, en fait, ça nous touche, c'est que justement, on a des personnages dans lesquels on peut se faire ça et que, en fait, chacune des espèces représente un peu... peut-être une certaine partie de la société. Je vais prendre, par exemple, l'exemple des cerfs qui sont des personnages très fiers, qui veulent être au-dessus de tout le monde. Et d'ailleurs, le personnage qui est en serre, du coup Louis, qu'on a suivi le plus souvent, a vraiment été éduqué dans cette truc de tu es meilleur que les autres, il faut que tu sois au-dessus des autres, et tu as beau être un herbivore, c'est-à-dire que normalement tu n'es pas censé être en haut de la chaîne alimentaire, tu es au-dessus de la chaîne alimentaire, et s'il faut que tu manges de la viande, tu mangeras de la viande, et s'il faut que tu tues des gens, tu tueras des gens, mais à la fin tu seras le meilleur parmi tout le monde, tout simplement. Autre petit enjeu que j'ai oublié, c'est que à la fin du manga, il nous est vendu que le prochain Beastar sera choisi. Le Beastar, qu'est-ce que c'est? Le Beastar, c'est quelqu'un qui sort du lycée, qui est en lycée du coup réputé et avec ça nous vend en fait la sélection des Beastars. Et Beastars, qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur élève du lycée Sherrington. Pourquoi est-ce que c'est important d'être un Beastar? Parce que le Beastar est considéré comme étant l'élite de cette société. D'ailleurs, au cours du manga, on va en rencontrer un Beastar. Et on se rend compte qu'en effet, c'est quelqu'un qui est vraiment, en fait, c'est une star. Ce Beastar fait partie dans certains... Dans certains métiers, mais en fait le métier n'est plus si important que ça, parce que étant donné qu'il fait partie de l'élite de la société, forcément qu'il sera mieux payé, qu'il sera mieux vu. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut devenir Beastar alors qu'on est issu dans milieu modeste? Mais après, on va parler ça va parler de plein de trucs. Je pourrais parler de Beastar pendant des heures et des heures.
Je préfère l'alerte spoiler, mais voilà,
sachez aussi que peut-être seul petit trigger warning, c'est que bon, ça va quand même parler de meurtre, ça va parler de cannibalisme dans un sens, et ça va parler aussi d'harcèlement scolaire. Mais voilà, pour le coup, j'ai terminé pour le premier truc de Qu'est-ce qu'on lit. Pour la deuxième œuvre de Qu'est-ce qu'on lit, on va parler de Les Tortues Ninja, le dernier renin. Le dernier renin, qu'est-ce que c'est? Le dernier renin, c'est une aventure des Tortues Ninja, et son résumé, il arrive tout de suite, c'est le clan Amato. Le clan Amato n'existe plus. En 2, 3, 4. Le clan Amato n'existe plus. Le clan foot règne sur New York. Le clan Amato n'existe plus. Le clan foot règne sur New York, sur un New York post-apocalyptique, ravagé par la guerre civile. Mais dans l'ombre, le dernier survivant de la fratrie des tortues rôde, bien décidé à venger sa famille disparue. Sacré résumé, pas vrai? Ça donne envie. Eh bien, évidemment que ça donne envie, parce que c'est un très bon comics. C'est un comics qui est très très sombre, et que contrairement à Beastar, c'est pas un comics que je mettrais entre toutes les mains. Je m'explique. C'est un comics qui va vraiment parler d'une société qui va être ravagée. C'est un comics que je mettrais pas entre toutes les mains pour une raison très simple, c'est que ça va vraiment nous dépeindre en univers qui est assez sombre, assez froid, dans laquelle tout ce qui va être espoir semble avoir disparu, du moins au début. Mais très vite, on va du coup suivre le dernier survivant des Tortues Ninja, parce que oui, en fait, toutes les Tortues Ninja, sauf une dont je ne dirai pas qui, sont mortes. On va nous le dépeindre comme étant un reclus de la société, qui est devenu fou car il est hanté par le spectre de ses frères, et tout simplement qu'il va chercher, à se venger, en revoyant évidemment la plupart des personnages qu'on connaît, qu'on a appris à aimer lorsqu'on a lu ou vu les Tortues Ninja, du moins ceux qui sont encore vivants. Est-ce que j'ai aimé? Ça a été compliqué, pour être franc. Au début, j'ai lu la première fois et j'ai détesté. J'ai détesté parce que je pense que ça me faisait sortir en fait ça me faisait sortir en fait un peu du sentier que je connaissais, notamment par rapport aux Tortues Ninja. Même si je ne m'attendais pas à avoir, on va dire, le côté drôle de la série, parce que les comics ne sont pas du tout drôles. Je sais pas, ça m'a paru bizarre. J'ai pas aimé voir cette tortue, donc que je ne peux pas nommer, être dans cet état-là, parce que elle est pas censée être comme ça. Et du coup, en fait, tout ça m'a dérangé. Voir New York dans cet état-là aussi, ça m'a dérangé. Plein de choses, en fait, m'ont dérangé, qui font que, en fait, je l'ai lu une première fois et j'ai posé le comic et je me suis dit plus jamais. Je ne comprends pas pourquoi il est aussi bien. Puis pour l'émission, je me suis quand même dit qu'il fallait que je me replonge dedans, et je l'ai relu, et bizarrement, j'ai adoré. Les dessins sont très beaux, mais ça je le dis tout le temps, les dessins sont toujours très beaux parce que j'ai des bons goûts, que voulez-vous. Mais non, les dessins sont très très beaux, ils rendent complètement hommage à l'ambiance sale et morose que veut nous transmettre en fait ce comics. On a des personnages qui sont en fait bien écrits et qui sont brisés, et je pense que c'est ça qui m'a dérangé. Quand je lis un truc qui est considéré comme super héroïque, j'ai envie de voir des messages d'espoir, et là il n'y en a pas. Et même la fin, en fait, elle est pas si... Elle est bien. Il y a enfin une petite lueur, parce que oui, bon, ça reste un comics, il y a une petite lueur d'espoir, mais en fait, pas trop. Et quand on sait qu'on va lire ça, et qu'on commence à lire le comics dans cette optique-là, tout de suite, en fait, on arrive à en voir les points forts et les points faibles. Il y a des idées qui sont très bonnes, notamment tout ce qui va être serviteurs du clan foot, qui sont très très bien écrits, ils sont même plus humains. ils sont à moitié. Il y a toujours eu ce côté un peu technologique dans les Tortues Ninja, mais là c'est poussé à son paroxysme. On voit que les gens, parce que la ville maintenant est entre différentes strates, et on voit que les gens qui sont dans la strate la plus basse, ils sont dans la merde, ils pataugent dans la merde, ils se battent pour survivre. Et en fait, il y a plus de loi. Enfin, si, il y a une loi. Tu n'as pas le droit de parler mal du clan foot, par exemple, sinon tu te fais tabasser. Et quand t'as fini de patauger dans la merde, grosse montée jusqu'à la première strate où tu vois le grand méchant de l'histoire. Et c'est, enfin, on en parlera après du méchant, mais tu te rends compte qu'il dit littéralement, ouais, s'il commence à y avoir un petit truc dans les castes inférieures, butez-les. On va pas se faire chier par des merdeux et, c'est pas drôle, hein, mais oui, dans Star Trek 1, c'est comme ça. Et vous faire comme ça. Mais voilà, je pense que j'ai pas mal parlé là du coup déjà de ça, et on va parler rapidement des points négatifs. Je dirais que le gros point négatif, c'est le méchant, parce que le méchant, c'est un putain de guignol. J'ai l'impression qu'ils ont voulu le rendre oh là là, je suis méchant. Bon, le méchant, ça on le sait au bout des 3 premières pages, c'est le petit-fils de Shredder. Donc c'est le fils de la fille de Shredder, et il a une tête à claque, il a des cheveux longs noirs, il est fin comme en phasme, il pleure sur la capsule cryogénique de sa mère. Là, il me fait pas peur. Enfin, après si, parce que c'est un très bon combattant, mais quand tu le vois la première fois, tu te dis que c'est un guignol. Comment est-ce que ça, parce que oui, c'est ça qui a tué toute la, qui a réussi à venir à bout du clan Amato, a fait ça, mais oui, il y est arrivé. Et encore une fois, quand débute le comics, tu comprends pas comment ça a pu en arriver là, et puis quand c'est expliqué, tu te rends compte que il a beau être ridicule, il y est arrivé là où son grand-père est arrêté. Et c'est peut-être le seul truc que, et c'est parce que je suis aigri encore une fois, j'aurais préféré que ce soit Shredder qui arrive, parce que le petit-fils de Shredder, sans méchanceté, je m'en branle. Mais voilà, sinon c'est un très très bon comics, et foncez pour le voir. Est-ce que ça t'a donné envie de le lire?
Oui, ça m'a grave donné envie de le lire. Par contre, j'ai une petite question. Si on n'est pas familier avec l'univers des Tortues Ninja, surtout l'univers Tortues Ninja Comics, parce que je sais qu'il y a pas mal d'écart entre la série animée et le comics, est-ce qu'on peut lire ce livre? Parce que je suis méga hypée, mais j'ai jamais lu aucun Tortue Ninja en comics, et même l'animé, j'ai quelques notions, je l'ai vu quand j'étais gamine sur TF1, mais voilà quoi, c'est tout. Donc est-ce que je peux lire ce comics si j'ai pas si j'ai pas les notions
Disons que si t'as les notions de base, c'est-à-dire April, les 4 tortues, Maître Splinter et Shredder, oui, tu peux complètement le lire, parce qu'en fait, ça va y avoir un vrai travail en fait sur le comment on en est arrivé là. Du coup, on sait si tu sais que du coup le clan Foot se bat contre le clan Amato, c'est-à-dire les Tortues Ninja contre Shredder, tu peux y aller. C'est une vision qui est assez sombre de ce qui va se passer par après, mais qui est aussi malheureusement très réaliste. Ils sont 5. Contre une armée, enfin, ça peut pas bien se finir. T'as pas envie que ça se finisse mal, mais ça peut pas bien se finir. Mais voilà, mais du coup, oui, tu peux complètement le lire.
D'accord, alors je pense que je vais le lire, parce que c'est vrai que j'ai aucune notion sur les Tortues Ninja, ou pas trop en tout cas. Mais je pense que je vais grave le lire, parce que ça m'a grave donné envie en fait.
Ok, très bien. Je vais juste, avant de terminer, rappeler qu'on est sur Radio G 101.5 FM, et c'est une radio qui est aussi disponible en DAB+. Maintenant que ça s'est dit, on va mettre fin à la rubrique Qu'est-ce qu'on lit, et on va tout de suite lancer notre première pause musicale. Et aujourd'hui, on va écouter une musique qui s'appelle Otonoke de Creepy Nuts. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
あきらめろバロやからあんたらなんかじゃ束なってもかなわんクワバラクワバラクワバラ何も止まらん速さくたばらんたまらんさがら星と相撲かままそこだけにはちゃまだ俺はもう一人のあなたさらちゃんかやちゃんわんさか読みの国ファンだら極東中になんだが四十四分待ったら四尺四寸四分さながかびらちゃんバンガラ呼ぶ声 てた先で霧は晴れた猫とボコがうまく噛み合ったら痛みが重なったら心からだ頭みなぎってゆくなんだか背中に今晴れが開いたならば暗闇からのさらば、hey、飛び立ってゆく体、hey、心からだ頭懐かしい暖かさ足元に今花が咲いたならば暗闇からのさらば、hey、飛び立ってゆく体なんとだって生きるお前や君の中またの暗闇耳の中胸の奥に息づいてるメロディーリズムに今日も才能かばらど真ん中積み上げてくトップトップ鬼とチャンバラドリリカのチェスまさか渡る大海原花を出すぎシャララ払いたいのならマスターまでのサスタバ誰が開いたかパンドラアートは何があっても知らんがら何百年待ったか超久しぶりのシャバだガキや若葉まだこっち来んじゃねえよバカが今確かに目があったなこういうことかシャマラン
入れた眠り飽きた先で君が待ってた盾と矛が肩を抱き合ったら怒りが消え去ったら心からだ頭みなぎってゆくなんだか背中に今晴れが開いたならば暗闇からのさらば、hey、飛び立ってゆく体、hey、心からだ頭懐かしい暖かさ足元に今花が咲いたならば暗闇からのさらば、hey、飛び立ってゆく
On se retrouve juste après, du coup, la petite pause musicale qui était, du coup, pour ceux qui l'ont reconnu, la version longue de l'animé qui vient de sortir, qui est aussi un manga, qui s'appelle Dan Da Dan. Et du coup, bah, on va en parler tout de suite dans la chronique Pop and Clap. À tout de suite. Action, émotion et un peu de popcorn, bienvenue dans Pop and Clap. Donc, de quoi on parle aujourd'hui dans Pop and Clap ? On va tout de suite commencer par Dan Da Dan, vu qu'on a écouté le générique. Alors Dan Da Dan, qu'est-ce que c'est ? Dan Da Dan, pour présenter ça de manière très très rapide, c'est un nouvel animé qui est déjà disponible sur Netflix et sur Crunchyroll. Il y a actuellement 7 épisodes qui sont disponibles et un 8e devrait sortir le lendemain de cette émission. Oh pardon. Je vais essayer de pas mourir. Et du coup, Dan Da Dan, ça parle de quoi ? Dan Da Dan, ça parle de deux ados qui sont du coup Momo et Ken, deux ados qui sont pour la première fans de paranormal et pour le deuxième fans d'aliens. Il se trouve que au début de l'épisode 1, ils se disputent pour savoir qui a raison et qui a tort par rapport à qu'est-ce qui existe ou pas. Et suite à cette dispute, ils se donnent un petit défi, on va dire. Et ce défi se passe pas exactement comme ils l'avaient prévu. Et de là, bah, leurs aventures vont commencer. Est-ce que on a aimé Dan Da Dan chez Pop Flash? Alors, personnellement, oui. Mel donnera son avis juste après. Mais personnellement, oui, j'ai beaucoup aimé. Je lis le manga depuis qu'il est sorti au tout début. Et, bah, tout simplement, pourquoi est-ce que c'est bien? Bah, déjà parce que, encore une fois, les personnages sont attachants. J'aime beaucoup le duo de personnages principaux qu'on peut appeler couple, que sont Momo et Ken. Mais j'aime aussi beaucoup Enfin, j'aime aussi énormément les personnages secondaires qui sont introduits. J'aime beaucoup Mévé Turbo et j'aime beaucoup tous leurs amis qui vont venir se greffer dessus. Je ne donne pas les noms parce que je n'ai pas envie de spoiler les personnes qui n'en sont pas encore là. Mais du coup, non, c'est la grand-mère de Momo est un personnage qui est pépite pour plein de raisons différentes. Et dans l'ensemble, l'histoire est bien écrite, les personnages sont attachants. Il n'y a pas trop de fanservice et ça, c'est agréable pour un shonen. Comment dire ? Pour une fois, c'est un peu comme My Hero Academia, vous voyez, quand c'est sorti, ça parle de sujets dont on ne parle pas tout le temps, on va dire. Les pouvoirs sont différents, les pouvoirs sont différents, la manière dont les personnages évoluent sont bien. Je trouve les personnages féminins personnellement particulièrement bien écrits, et tout ça fait que déjà le manga je l'aimais beaucoup, mais que du coup redécouvrir ça avec l'animé est quelque chose de vraiment très agréable. Ensuite, pour ce qui est de l'animé, on va dire de manière assez brute, je trouve que l'animation, elle est vraiment très belle. Je m'explique. C'est une animation qui, pour beaucoup, diront ouais, ben c'est une belle animation, mais il y a sans plus. Et je leur dirais ouais, peut-être, mais du coup, ça veut dire que tu retires tout ce qui est choix des couleurs. Il y a un jeu des couleurs, notamment dans le premier épisode, qui pour moi c'est celui qui m'a le plus marqué, qui est marquant tout simplement parce que ça permet de noter en fait l'explosion de pouvoir ou de noter même on va dire les sentiments des personnages. On va passer d'un animé très coloré à un animé qui va être très très terne. On va avoir aussi un véritable travail sur le son qui est aussi très bien. Et au moment où j'en parle, on a vu que les 4 premiers épisodes. Et dans l'épisode 3, t'as tout un passage de combat où tout l'animé passe en noir et blanc pour nous montrer en fait le changement. Et je trouve ça bien. Et encore une fois, en quatre épisodes, l'animé a réussi à mieux développer ses personnages que certains shonen ou que certains isekai que tout le monde est en train de maxer, alors que c'est mon avis que je trouve que c'est de la merde, mais ça c'est autre chose encore une fois. Mais maintenant que j'en ai parlé et que j'ai réussi à cracher à jeter ma petite crotte de nez sur les isekai que je trouve qui se ressemblent tous, toi Mel, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors moi j'ai adoré Dandadan. Alors j'avais essayé de le lire et en fait je remarque que ce genre de lecture j'y arrive pas. Par contre en animé je trouve que ça passe toujours super bien. Et du coup en fait j'ai vraiment accroché à l'animé. Je pensais pas accrocher autant honnêtement. Effectivement le jeu des couleurs dans l'animé est incroyable, vraiment. Celui qui m'a le plus marqué justement c'est l'épisode 3 où à un moment donné il y a tout qui est en noir et blanc avec juste des touches de couleurs par-ci, par-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. J'adore le personnage de Momo et de Ken. Je trouve leur relation très...
complémentaire.
Très complémentaire, ouais. Et complémentaire et en même temps à la fois... Ça se joue sur des clichés qu'on connaît tous dans les animés. Le garçon qui est un peu timide, réservé, qui parle pas beaucoup, qui n'a pas d'amis, etc. Et la fille qui est un peu plus solaire. Et en fait, ça
colle bien.
Ça colle bien, en fait, ça se complète bien.
Et j'ajouterais même que par rapport à ça, désolé, je te coupe, dis-moi si je te coupe, mais je rajouterais même que ce qui joue bien en fait dans leur relation, c'est que contrairement à certains mangas ou animés où t'es en mode, je suis en intello qui ne parle à personne, oh là là, je ne sais pas comment je vais faire pour faire ça, mais en fait, je suis trop fort et je suis beau et je suis charismatique. À partir de l'épisode 1 où t'es juste en mode, mon ref, tu n'es pas dans un télo, t'as des tablettes de chocolat comme dans Bodybuilder et toutes les personnes dès que tu passes se tournent. Donc non, arrête de mentir. Pourquoi tu mens? Et du coup ça aussi je trouve ça plutôt bien. Et encore une fois, enfin moi je le dirais, je le redirais, c'est que je trouve que le personnage de Momo par rapport aux personnages féminins, comment ils sont écrits dans les shonen récents, hein, parce que les gens maxent Jujutsu Kaisen. Attention, j'adore Jujutsu Kaisen, mais les personnages féminins dans Jujutsu Kaisen, Nobara, mais Nobara, elle est sous-exploitée de ouf. Et l'autre personnage qui est censé être le personnage, oh merde, j'ai la chance spoil de l'espace, mais en gros tous les personnages féminins de Jujutsu Kaisen sont soit là pour être des elles sont fortes, hein, je dis pas, mais elles sont pas exploitées. Et après on va même pas parler des anciens shonen, parce que sinon on va parler de Naruto, et que Naruto, même si c'est un des mangas préférés, putain, il sait pas écrire une femme. Et pour une fois avoir quelqu'un qui essaye d'écrire des femmes de manière réaliste et bien, ça mange pas de pain, c'est agréable.
Oui, alors après, je sais pas trop ce comment me positionner sur ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un peu de fanservice, surtout dans l'épisode 1 où j'étais un peu mal à l'aise sur certains trucs. Mais c'est vite passé, donc je sais pas encore comment me positionner sur ça, honnêtement. Mais c'est pas non plus ultra dérangeant. C'est pas comme certains mangas ou animés où c'est over-sexualisé.
Le héros chanceux, le fameux voilà, héros
c'est ça,
chanceux.
C'est ça.
Mais voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que
non,
je passe à la suite ? On va passer tout de suite. Tu veux le faire ou je le fais ?
Je peux le faire comme ça.
Vas-y,
après on finit avec. Mais du coup, dans Pop and Clap, maintenant, on va parler de Lara Croft, plus précisément Tomb Raider, la légende de Lara Croft, une série animée sortie sur Netflix il y a peu. Lara Croft explore d'anciens mystères et découvre des vérités perdues à travers des destinations à couper le souffle. La célèbre aventurière doit interrompre son périple et rentrer chez elle lorsqu'un dangereux et puissant artefact chinois est dérobé au manoir Croft par un voleur ayant une étrange connexion personnelle avec elle. Cette quête emmènera la jeune femme dans une nouvelle aventure à travers le monde et dans les profondeurs des tombes oubliées, et elle sera obligée de se confronter à elle-même et de décider quel genre de héroïne elle veut devenir. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé, honnêtement, c'était un bon moment, je trouve, à passer devant. Au départ, j'étais pas super emballée, pour être honnête, mais finalement, j'ai apprécié. L'animation est vraiment bien, les personnages sont plutôt bien développés, même si j'aurais aimé en savoir un peu plus sur certains. Au début, nous retrouvons une Lara confuse, traumatisée et déprimée par un deuil. Elle rejette son entourage, mais petit à petit, elle s'ouvre à nouveau, et j'adore... Et c'est un développement de personnages que j'aime beaucoup, en fait, les personnages un peu renfermés sur eux-mêmes, etc., et qui s'ouvrent à leur entourage à nouveau. Et j'adore également le personnage de Zip ainsi que Jonah, qui sont de véritables amis pour Lara. Le seul point négatif, c'est le méchant de l'histoire qui, je trouve, manque un petit peu de profondeur et de consistance. Et voilà. Et si je devais donner une note, je donnerais un bon 8 sur 10 quand même à cette série. Et toi, JR ?
Moi, je le mettrais plutôt en 7, mais je suis dur. 6 plutôt même. C'est une bonne animation de Lara Croft. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité, mais je trouve que c'est plutôt agréable. Nous a vendu ça comme une écriture de Lara Croft, comme étant de comment est-ce qu'elle est devenue Lara Croft, mais ce n'est pas vrai. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Je pense que 2 saisons, ça aurait été bien. Deux saisons, ça aurait été bien parce que je trouve que toutes les intrigues vont un peu trop vite et que du coup, en fait, on n'a pas le temps vraiment de s'attacher au personnage. Et puis surtout, personne ne meurt. Et ça, je trouve ça dommage. Mais ça, c'est encore une fois, c'est juste moi.
Et moi, justement, je suis contente.
Mais voilà, c'est deux écoles. Mais voilà, je vois le temps. Et du coup, oui. Dans l'ensemble, on a plutôt bien aimé. On va passer tout de suite à notre dernier truc qu'on a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'un film, mais on parlera de la meilleure série animée qui est sortie depuis ces 10 dernières années. On va parler d'Arcane.
Oui.
Arcane, est-ce que je vais vraiment vous le présenter ? Arcane, ça suit, du coup, ça se passe à Piltover, qui est du coup dans l'univers de League of Legends. On va y suivre les aventures de Vi et de Jinx. Et là, du coup, on va parler de la saison 2, dont le premier tronçon est sorti samedi dernier et qu'on a binge-watché. Oh putain, que c'est bon !
Ah ouais.
Oh là là, les musiques ! L'animation, les personnages. On retrouve du coup le cast de base qui sont du coup Jinx, Vi, Sinjet, Victor, Kate, Sivika et beaucoup d'autres. Juste après du coup l'attentat que Jinx a fait sur Piltover et du coup des répercussions que cela va avoir sur sa sœur, mais aussi sur le reste du monde et sur les personnages. On nous avait vendu ça comme étant la série des opposés. Et en soi, oui, on a beaucoup de personnages qui passe de protecteur à victime ou qui passe de destructeur à protecteur, et c'est très très cool à voir. Mais du coup voilà, juste je vous la conseille. J'ai pas grand chose à dire parce que je pense que il faut que vous la découvriez. Il y a des éléments d'intrigue qui sont très très cool. Et voilà, je fonçais le voir sur Netflix. Mel, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, j'adore. Les musiques sont incroyables. Les couleurs sont incroyables. L'animation est incroyable. Les personnages sont incroyables. Dans le dernier épisode, je crois, il y a quelque chose que j'attendais depuis la saison 1. J'ai pas envie de spoiler, donc voilà. Mais Pour ceux qui savent, ils savent. Voilà, ça se passe entre deux personnages. Voilà, on va pas en dire plus. Et ouais, voilà, j'ai adoré. C'est une série incroyable. Il faut vraiment la suivre. Et même si vous connaissez pas League of Legends, que vous n'avez jamais joué au jeu, c'est pas grave. Ça n'a presque rien à voir à part l'univers, les personnages, etc. Mais en soi, vous pouvez totalement comprendre la série sans jouer au jeu.
Et du coup, bah maintenant que c'est dit, bah comme vous comprenez, foncez la voir, c'est sur Netflix, ça se regarde comme du petit lait, ça dure 40 minutes par épisode. Et du coup, justement, en parlant d'Arcane, on va passer tout de suite une musique qui est en rapport avec un des personnages, qui est du coup le personnage de... j'ai oublié son nom.
Ambessa.
De Ambessa, et du coup, on va passer tout de suite Blood, Sweat and Tears de Cheryl, de Cheryl et de Lee Ralph. À tout à l'heure.
À tout.
On est de retour du coup sur Pop Flash. Vous écoutez Radio G 100.5 FM, Radio Angevine, disponible aussi en DAB+. On se retrouve tout de suite pour une petite chronique rapide sur en gros JDR, mais pas très connu, qui s'appelle La Légende des 5 Anneaux. On se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite.
La chronique JDR lance les dés avec JR.
Et du coup, de quoi on parle aujourd'hui ? On parle de la légende des 5 anneaux. Qu'est-ce que c'est, la légende des 5 anneaux ? La légende des 5 anneaux, c'est un jeu de rôle inspiré du Japon féodal avec des éléments mythologiques et fantastiques. L'action se déroule principalement dans l'empire du Rokugan. Du coup, l'univers se passe dans un univers inspiré du Japon féodal, avec des éléments mythologiques et aussi historiques, mais aussi quelques éléments fantastiques. Il se déroule plus précisément dans l'empire de Rokugan. C'est un gouvernement du coup qui est gouverné par un empereur céleste divisé en plusieurs grands clans. Les grands clans sont les suivants. Du coup, la grue, qui sont les esthètes et les diplomates. Le lion, qui sont des maîtres de guerre. Les dragons, qui sont des gens qui sont plutôt basés sur tout ce qui est mysticisme et philosophie. Le scorpion, qui est du coup le clan des espions et des manipulateurs. Le clan du phénix, qui est un clan de puissants magiciens. Le clan du crabe, qui est du coup le clan qui défend les frontières. Et enfin, le clan de la licorne, qui sont du coup des clans d'explorateurs, mais aussi de cavaliers. Chacun de ces grands clans a plusieurs plus petits clans qui sont sous leur rôle, ce qui fait que créer un clan est tout à fait possible dans ce jeu de rôle. La loyauté et l'honneur est évidemment au centre de ce JDR. Les personnages vont être soit des samouraïs, soit des courtisans ou encore des moines qui vont devoir équilibrer leur ambition personnelle ainsi que les attentes de leur clan et de leur seigneur. L'honneur et la réputation sera vraiment quelque chose, sera vraiment une mécanique importante dedans. Un samouraï sans honneur ou un courtisan sans honneur est un courtisan qui est mort, tout simplement. Il faut savoir que dans cet univers, il y a tout de même de la magie qui, du coup, va se décliner sous la forme de 5 formes, des 5 éléments, d'où la légende des 5 anneaux. Les 5 éléments sont les suivants, la terre, le feu, l'air, l'eau et le vide. Chacun de ces éléments ne va pas être uniquement pour la magie, mais aussi pour les différentes capacités des personnages. Chacun des grands clans a une spécialité dedans, sachant que, du coup, vous pourrez faire des personnages qui proviennent très bien d'un clan d'espions et qui fera de la magie, étant donné que chacun des grands clans a aussi un certain nombre d'écoles qui lui sont dévouées et dans lesquelles les membres du clan vont pour apprendre. Enfin, les joueurs vont devoir faire face à différentes menaces, mais la plus grande menace est l'ombre rampante, une force maléfique qui corrompt les âmes et qui menace l'équilibre du Rokugan. Les samouraïs doivent donc protéger ce royaume, tout simplement. Mais aussi, il faut savoir que si les joueurs sont amenés à se balader dedans, ils arriveront très vite à des murs qui protègent le Rokugan de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dangereux, dont le clan de la licorne refuse de parler. Enfin, pour ce qui est de l'expérience de jeu, c'est un mélange de combat, d'intrigue politique et aussi de respect, encore une fois, du code de l'honneur. C'est un jeu de rôle qui est assez immersif et qui nous plonge dans des aventures héroïques inspirées du folklore et des valeurs asiatiques. Est-ce que ça te donne envie d'y jouer, Mel ?
Oui, ça me donne envie d'y jouer. L'idée de l'espion mage, j'adore. Voilà. Donc, je connaissais pas du tout, mais ça a l'air trop bien. Donc, ouais, ça me tente de ouf.
J'ai fini. Alors, pour l'anecdote, j'ai fini de lire une fois le jeu de rôle. C'est Mel qui me l'a offert.
Oui.
Avec une des extensions. Et il est complet comme jeu. Hein. Il est très très complet. Et pour ce qui est du pour ce qui est du coup du système de jeu, c'est pas un système des 6, des 100 ou des 20 habituels, c'est un système des légendes des 5 anneaux. En gros, leurs dés sont particuliers, et c'est peut-être le petit point négatif que je trouverais au jeu de rôle, c'est qu'il faut acheter les dés en plus, et que les dés coûtent 15 balles quand même.
Ouais.
Et c'est des dés tout simples blancs, donc voilà.
Je ne savais pas quand je l'avais offert.
Ah non, c'est pas dans leur proche, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Mais du coup, en fait, il ne faudra pas faire en fait en certains chiffres pour réussir. C'est qu'il faudra faire une combinaison de différents symboles, en sachant que certains symboles peuvent influer directement sur l'humeur des personnages en face de toi, sur ce qui va se passer, sur ce que tu vas avoir ou pas. Avec un système du coup de roll and keep, c'est-à-dire que tu jettes tes dés et tu gardes ce que tu veux pour avoir fait ce que tu veux tout simplement avec ton intention.
C'est intéressant comme mécanique, je trouve, mais c'est vrai que c'est dommage du coup de pas pouvoir. Enfin, peut-être que tu peux faire du du fait maison et d'adapter avec des classiques. Est-ce que c'est possible ou pas?
C'est classique. Alors moi, je parle actuellement de la 5e édition. Il faut savoir que jusqu'à la 4e édition, c'était exactement ça en fait. C'est que tu utilisais des D6 et en gros, c'était une difficulté, admettons, 21. Et si tu avais 4D, il fallait que tu fasses un chiffre qui est supérieur à 21. Mais avec la 5e édition, ils ont décidé de changer. Et écoute, c'est des choses que je peux comprendre. Ouais. Mais voilà, c'était tout pour la petite chronique du coup sur lancer les dés. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Un jour, on va faire une partie de JDR pendant la session. Un jour peut-être. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour le bric-à-brac. Quiz, blind test et surprise, bienvenue dans le bric-à-brac avec Mel et JR. Et aujourd'hui, dans le bric-à-brac, on va répondre à vos questions. On a quelques questions, des questions qui peuvent être assez longues, du coup on a pris un peu plus de temps. Il nous reste environ 5-6 minutes, donc ça va. On va dire 10 minutes. Et on va tout de suite répondre. Du coup, on a beaucoup de questions de Noah. Coucou Noah, si tu nous entends. Et la première question, ce sera quelle est votre race de fantasy préférée? Je te laisse répondre, elle en première.
Moi, c'est les elfes. Je suis team elf à chaque fois. C'est dramatique, je sais, pour la plupart des gens, mais ouais, c'est elf. Ou les Tieflings pour Baldur's Gate et dans Neverwinter aussi, je crois qu'il y avait les Tieflings. Mais c'est soit Tieflings, soit les elfes. Vraiment, dans tous les univers, c'est des elfes. J'adore les petites oreilles pointues des elfes. Donc voilà, souvent c'est des elfes.
Moi je dirais que j'en ai deux. La première, ce serait les métamorphes. Parce que j'aime beaucoup les personnages. J'aime jouer voleur, encore une fois, je leur dis. J'ai un amour fou pour les voleurs. Et du coup, forcément, les métamorphes, ça me joue. Et sinon, j'aime beaucoup les orques parce que smash. Bah, pas smash d'un point de vue comme vous pensez. Non, parce que taper, voilà. Du coup, voilà pour la première question. La deuxième question, c'est connaissez-vous les backrooms? Et si oui, avez-vous une opinion sur le délire?
Alors, personnellement, je connais un petit peu parce que j'ai vu des vidéos de Feldup par exemple qui en a parlé. C'était la première fois que j'en entendais parler et j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est ce délire? Pour ceux qui savent pas, les backrooms, en gros, si j'ai bien compris, c'est des images ou des vidéos de gens qui font comme un peu du roleplay sur internet et qui vont dire qu'ils sont tombés dans une backroom, donc une salle c'est une salle qui est, je sais pas comment expliquer, mais en gros tu tombes dans, par exemple là je suis dans le sol.
En gros tu connais?
Oui.
Et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce
mais
que
c'est
bien
ce que j'essaie d'expliquer aux gens.
Ah, vas-y.
Désolée, mais en gros par exemple là je suis dans le sol d'enregistrement de Radio G, je vais glisser dans le sol et je vais me retrouver dans une salle ultra dark, un peu glauque,
et tu vas être bloqué en fait.
Et je vais être bloqué et le but c'est d'essayer de s'en sortir, mais tu peux pas te sortir des backrooms. Enfin, moi j'ai pas très bien compris le délire, mais
en fait t'as les bases, mais en fait t'as vraiment les bases de quelqu'un qui s'y est pas intéressé, et c'est pas grave, t'as le droit. Moi, personnellement j'ai beaucoup lu là-dessus parce que je suis en it et que c'est pas grave, mais tu peux pas si tu peux sortir des backrooms en faisant, en fait, dans certaines salles en fait t'as une sortie. De base je trouvais ça très bien, je trouve que c'est parti un peu trop loin. C'est tout ce que j'en dirais. J'aime bien les mini-séries sur les backrooms. Mais on va passer du coup tout de suite à la dernière question sur laquelle on répondra très rapidement. Quelle est votre opinion sur Star Wars et avez-vous joué au jeu Star Wars?
Alors, j'ai jamais joué au jeu Star Wars. Je suis pas du tout familière avec l'univers de Star Wars. Le premier Star Wars que j'ai vu de ma vie, c'est Star Wars 8.
Oh!
Voilà, et la seule trilogie Star Wars que j'ai vue, c'est les deux derniers, les trois derniers, et j'ai vu Rogue One aussi. Voilà, c'est ma limite, c'est tout ce que je sais.
Joué au jeu?
J'ai jamais joué au jeu, du coup, non plus. J'avais bien aimé, du coup, parce que je suis très bon public et sûrement très naïve de l'univers de Star Wars, mais j'avais bien aimé.
Ce sera coupé au montage. C'est pas vrai.
Non, mais j'avais bien aimé les trois derniers films. Voilà, j'avais bien aimé les trois derniers films, mais c'était pas non plus grandiose. J'ai entendu parler des jeux et qu'apparemment c'était bien, mais c'est tout.
Okay. Moi personnellement, je suis un fan de la première trilogie. J'aime la prélogie parce que j'ai grandi avec, mais il faut pas se mentir. Il y a des très belles scènes, mais dans l'ensemble, elle est pas ouf. Et la postlogie, voilà. J'en parlerai pas plus. Je sais que Mel a découvert la postlogie par la postlogie, du coup, je comprends qu'elle a aimé. Moi, personnellement, ça a été une purge. Surtout le 8 et le 9. Après, Rogue One est très bon. J'ai joué à deux jeux Star Wars. J'ai joué à beaucoup de jeux Star Wars, mais surtout des anciens. Je trouve que c'est pas mal. Battlefront 2, j'y ai joué. Puis après, il y a eu le truc avec les lootbox. J'ai arrêté d'y jouer. Et ça s'arrêtera là. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. On a le temps pour une toute dernière question, mais il faudra répondre très rapidement. Tac, tac, tac. Alors déjà, je sais pas si vous connaissez Sicar. Oui, je connais Sicar, c'est moi qui l'ai écrit.
Non, c'est tu.
Sinon, tout ce qui va être... Qu'est-ce que vous pensez rapidement? Quelle est votre adaptation de film, série préférée?
Moi, je pense que mon adaptation préférée, c'est les films Seigneur des Anneaux, qui sont adaptés
du Seigneur des Anneaux.
Tous les Disney qui sont adaptés de contes aussi, voilà, j'adore. Donc, ouais, je pense que je dirais les Seigneurs des Anneaux quand même, parce que je suis une grande fan. Et Game of Thrones aussi, la série, parce que j'ai jamais lu les livres, j'aimerais beaucoup. Mais je pense que c'est une des meilleures séries au monde, donc je pense que c'est une bonne adaptation.
Et du coup, moi personnellement, il y a le Seigneur des Anneaux, parce que j'adore le Seigneur des Anneaux. C'était la première partie de la question, je dirais la deuxième partie après. Parce que c'est bien le Seigneur des Anneaux, tout simplement. J'aime bien les personnages, c'est bien écrit. J'ai lu les bouquins, et les bouquins sont aussi cool. J'ai une préférence pour les films quand même. Certaines personnes vont ressortir les fourches, et sachez que, allez-y, venez, je vous attends. Mais deuxième partie, c'est avez-vous un personnage de fiction sur lequel vous arrivez
à vous identifier.
À vous identifier, voilà. À vous connecter ou à vous identifier, à vous connecter.
Alors, oui, j'en ai un.
Dis-le.
C'est Astarion dans Baldur's Gate.
J'ai envie de vomir.
J'adore ce personnage. C'est... Bon, outre le fait que c'est mon crush ultime, c'est un personnage qui me touche énormément. Voilà. Ok.
Et pour moi, j'en ai pas tellement sur lequel je pourrais m'identifier. J'avoue que dans les personnages de fiction, là, je découvre un peu la question et du coup, je suis un peu pris de court. Il n'y a pas de personnage où j'étais en mode ah oui, putain, lui, vraiment, j'arrive à m'identifier. Donc, je dirais que. Pour l'instant, non. Après, évidemment, si on parle de perso de JDR, il y a plein de personnages qui mais forcément, quand tu crées un personnage de JDR, il y a un peu de toi dedans. C'était tout pour cette émission. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Mel, un mot pour la fin?
Oui, merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt.
À très bientôt, tout le monde.
petit-régé.fr.